Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jérôme Stablon. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, c'est ça ?
Absolument.
Et à la tête de votre agence Bien Urbain, et vous avez
deux associés
maintenant.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez les citer ?
Oui, bien sûr. Alors, mon premier associé qui est, on appelle ça un cofondateur, c'est un peu pompeux, mais c'est la réalité. Il s'appelle Nicolas Seb et nous a rejoint en 2019 Guillaume Cantardian en tant qu'associé.
On va commencer par une histoire de goût. Le goût de l'architecte, mais pas celui que l'on attend d'habitude, mais autour de l'univers de la table. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif ?
Alors, la première question, oui, j'aime les plaisirs de la table, forcément.
Alors, on m'a déjà dit non, figurez-vous.
Ah bon ?
Oui.
Non, mais moi, ça me va plutôt bien. Plus qu'un mais, peut-être des situations qui me plaisent, c'est-à-dire des choses relativement simples et surtout avec des gens, avec des amis, avec de la famille, des contextes, plus que véritablement un mais qui pourrait ressortir comme ça. Donc voilà, c'est aussi ça qui crée des souvenirs, il me semble.
Un mets préféré ?
Préféré, chose simple. J'aime bien les fruits de mer, j'aime bien des choses assez basiques, du producteur à l'assiette.
Votre agence est basée à Paris, mais peut-être que vous venez d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. J'ai un parcours un peu singulier, entre guillemets, même si d'autres sont passés par là. Mais c'est que j'avais un papa qui était militaire. Et donc, j'ai pas mal voyagé en le suivant, simplement, pour des raisons professionnelles. Mmh. Et donc, j'ai coutume de dire que je viens pas forcément d'un endroit particulièrement, puisque tous les 3-4 ans, j'étais amené à bouger.
Donc, en fait, vous avez grandi dans des pays différents ?
Alors, pays, non, mais dans des régions de la France différentes.
Mmh.
Je suis né à Orléans, dans le Loiret, puis après, je suis allé à Ajaccio, ensuite, je suis allé à Amiens, ensuite, je suis allé à Fort-de-France... etc., etc. Donc, ça permet de voir pas mal de contextes différents en France. Pas toujours métropolitaine, mais en France.
Mmh, intéressant. Un souvenir gustatif ?
Un souvenir gustatif, peut-être puisqu'on parle de Fort-de-France, les Antilles, ouais, des choses pareilles, toujours un peu liées aux gens, puisque je me souviens des voisines qui nous écoutaient des choses assez locales. Donc, voilà, toujours autour du fruit, autour de bananes cuites, des choses comme ça.
Exotique ?
Plutôt exotique, oui.
Épicé ?
Je n'étais pas forcément très tolérant parce que j'étais jeune, mais oui, ça arrive souvent, oui.
Bon, alors, votre agence, qui se nomme Bien Urbain,
oui,
assure des missions à la fois de conception et de suivi de travaux jusqu'à la réception. Et quand on regarde votre site, on perçoit cette volonté justement de mener le projet du début jusqu'à la fin, avec peut-être une certaine humilité, parce que vous travaillez à la fois sur de la rénovation, mais aussi sur de l'équipement.
Mm-hmm.
Et vous avez travaillé, j'ai vu, pour les Arts Déco.
Absolument, mm-hmm. Ouais.
Donc vous allez nous raconter tout ça,
pourquoi
mais
pas, hein.
On va revenir à votre parcours, parce que je suis très curieuse. Quel est-il ce parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Vous l'avez déjà un peu évoqué à travers la cuisine. Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ?
Alors au bout d'un moment, quand même, on s'est stabilisé d'une certaine manière. Donc, un peu par le fruit du hasard, mes parents ont atterri dans le sud-ouest, à Toulouse, pour finir leur carrière, entre guillemets. Et donc, j'ai fait assez simplement mes études à l'ENSA Toulouse, tout mon cursus. Voilà, les cinq années de master. Et ensuite, j'ai fait un DSA d'architecture urbaniste à Marne-la-Vallée. Et là, c'était une expérience assez intéressante qui a ensuite conduit à mon premier emploi. Mais peut-être juste avant, pour revenir sur Toulouse, quand même, il y a à Toulouse des choses qui ont été assez marquantes, puisque c'est là où, d'ailleurs, j'ai encore gardé des contacts avec beaucoup de diplômés et même d'enseignants. Je pense notamment à la troisième année, qui est une année assez charnière à Toulouse, où il officiait un architecte qui s'appelle Laurent Tournier, qui a eu beaucoup d'aura sur pas mal de promos, mais notamment la nôtre. Et voilà, je pense aussi à Myriam Bécoucha, Laurent Godu, des architectes toulousains, chez qui d'ailleurs j'ai fait des petits stages, des petites missions comme ça, un peu à côté de l'école.
Et en fait, vous avez atterri à Toulouse, où vous avez évoqué l'une des raisons, mais votre père était dans l'aviation ?
Non, il était dans la gendarmerie.
Dans la gendarmerie.
Voilà. Et mon père, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui a profité d'une certaine manière de l'armée pour progresser. C'était aussi un corps qui permettait de le faire. Quand on n'avait pas forcément fait d'études particulièrement avancées, on pouvait par l'armée progresser. Et il a une formation d'électricien. C'est peut-être le seul élément qui me raccroche un peu au bâtiment.
Ouais.
Dans le sens où, voilà, il a...
Vous toujours... avez quand même entendu parler de circuit électrique.
Ah oui, pas mal.
Pas mal.
Donc voilà. Et puis ensuite Toulouse, effectivement, pour la partie architecture.
Alors là, vous venez d'évoquer votre parcours et votre ADN embryonnaire au niveau de l'architecture, une formation à Toulouse notamment, et vos associés.
Alors mes associés, Nicolas et Guillaume, ils ont tous les deux fait l'école de Marne-la-Vallée. Alors Nicolas, il se qualifierait lui-même, donc je me permets le terme. C'est un peu un ancien, puisque c'est la génération DPLG, c'est pas la génération HMONP. Et il fait partie de la première promo, alors c'est pas les premiers diplômés, mais une des premières promos de cette école, qui est la dernière école d'architecture à avoir été fondée, par Yves Londres en 99, je crois. Et Guillaume est arrivé un petit peu après, mais finalement, ils ont eu aussi un peu les mêmes enseignants sur place, avec notamment Yves Lyon, qui, on le verra après, était assez important dans la suite de notre parcours à tous les trois.
Parce que vous êtes rentrés dans son agence.
Parce qu'on a travaillé tous les trois dans son agence et c'est là-bas que l'on s'est connu par le travail.
Pendant combien de temps vous avez travaillé pour Yves Lyon ?
Alors,
le grand Yves Lyon.
Le grand Yves Lyon. Personnellement, j'ai travaillé à peu près 5 ans. Guillaume a travaillé à peu près 7 ans. Et Nicolas, une grosse dizaine d'années. Une grosse dizaine d'années.
Et un jour, vous avez décidé de prendre votre envol.
Et un jour, on a décidé de prendre notre envol à des rythmes un petit peu différents entre Nicolas et moi et puis Guillaume de notre part. Justement, en ayant travaillé ensemble, on a appris par soi. J'insiste sur ça parce que je trouve que c'est important. Notre association n'est pas le fruit d'une connaissance en école, justement. Même Nicolas et Guillaume, même s'ils étaient dans la même école, ils ne se sont pas connus. Je dirais, à l'époque, à l'ENSA, à Marne-la-Vallée. Et donc, par le travail, ça, je trouve, c'est important, parce que bon, Yves Lyon était une grosse agence, hein, quand même. Même si on ne travaillait pas tous sur les mêmes projets, il y avait un fort esprit d'équipe. Et donc, on a développé ça au cours des projets plus ou moins partagés. Les grosses agences, c'est aussi l'intérêt, c'est que la curiosité, si tant est qu'on est un petit peu curieux, on peut aller, glaner des informations, quelques savoirs. Et on s'est connus comme ça. Et puis, plus spécifiquement avec Nicolas et d'autres membres que je peux citer, Juliette Lafille, Louise Naudin et Thomas Bernard, on a fait Europan en parallèle de l'agence.
Europan 12 ?
Europan 12, ça remonte, 2013. Donc voilà, on en avait parlé à Yves Lyon, bien sûr, et on a fait cet Europan en parallèle, qu'on a eu la chance de remporter sur le site de Rouen-Saint-Sauveur. Et donc voilà, progressivement, on est un peu des tortues, nous, on avance lentement, mais on espère sûrement. Et donc voilà, progressivement, on a construit notre idée de 2013 à 2016, de façon à créer l'agence Bien Urbain en 2016. Donc il y a eu un processus fait de réflexion, bien sûr, on pourra peut-être y revenir, de réflexion et de pratique, puisqu'on a fait pas mal de petits concours à côté pour apprendre à se connaître. Encore une fois, par le travail, j'insiste, parce que je trouve que parfois, on entend parler de désillusions liées à des amitiés. L'association, c'est quand même
c'est
quelque chose...
C'est pas facile.
Voilà, d'assez particulier.
Il faut avoir une grande confiance les uns dans les autres.
C'est ça.
Ouais. Et puis, que l'équilibre se fasse naturellement.
Absolument.
Je reviens un petit peu à votre parcours, parce que j'ai une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que votre papa militaire vous a apporté de la discipline? Ou est-ce que c'est un peu l'inverse?
Non.
Ou les deux, peut-être?
Alors, il y a ma maman aussi, qui était très présente, bien sûr. De la discipline, je ne sais pas, mais probablement par son parcours. Je ne pensais pas qu'on allait parler de mon père comme ça, ceci dit, mais...
De l'engagement?
Oui, de l'engagement, une forme de rigueur aussi. Ouais. Parce que, voilà, sans avoir fait d'études, il a quand même atteint le plus haut grade qu'il ait pu atteindre sans avoir fait d'école prestigieuse. Je ne parle pas, même pas de Saint-Cyr, mais voilà, il a fait une école de gendarmerie classique. Et donc, oui, forcément, ce goût un peu de se débrouiller un peu seul, de persévérer, d'aller au bout des choses. On commence quelque chose, on le termine. Si on le termine bien, ça, c'est mieux. Donc voilà, cette espèce de culture, mais qui n'est pas forcément liée à l'armée, mais qui est peut-être aussi transversale à pas mal d'autres disciplines.
Oui, dont l'architecture et l'esprit d'équipe.
Et je trouve que c'est particulièrement appliqué, effectivement, dans notre métier. Ouais.
Vous disiez que vous êtes allé progressivement, que vous aviez gagné Rouen 500 voeurs, au rang 12. Est-ce que ça a donné lieu à une commande?
Alors, Rouen-Saint-Sauveur... Alors, c'est vrai que c'est l'esprit de Ropan, à la base. Je ne suis pas très connaisseur sur ce qui se passe aujourd'hui à Ropan. On voit que c'est quelque chose qui est toujours aussi prestigieux.
L'esprit elle-même.
Voilà, qui rayonne. Je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de commandes qui sont appliquées ensuite de façon directe.
Oui, la transformation est compliquée.
Absolument. Et la ville de Rouen et la métropole Rouen-Normandie, effectivement, a joué le jeu. Et lorsqu'ils ont su que l'on avait monté notre agence, ils nous ont donné une petite mission sur les franges du site, sur plutôt une forme d'urbanisme temporaire, pour le qualifier comme ça. Et donc effectivement, nous, notre étude, de façon très directe, a donné une petite étude qui a suivi avec une vraie mission, on pourrait dire. Après, c'est vrai que c'était un site un peu singulier dans le sens où il y a une gare LGV qui doit arriver. Donc, ça, le site lui-même, malgré toutes nos belles idées, a été structuré dans un appel d'offres beaucoup plus important. Après, au-delà de ça, je pense que jamais nous, on s'est dit on va faire cette étude pour concrétiser et décrocher ensuite un gros projet réaliste, entre guillemets. Mais on a plutôt abordé les choses comme... puisqu'en agence, chez Yves Lyon, on faisait aussi beaucoup d'urbanisme, pour le coup très concret, avec toutes les contraintes inhérentes, bien sûr. Et donc là, c'était une façon aussi de réfléchir un peu au-dessus, un peu au-delà.
Par vous-même, avec votre propre responsabilité.
Oui, absolument, même si on avait, il faut le dire, beaucoup de liberté chez Yves Lyon. Il y avait cette façon d'essayer de développer des choses un peu différentes, d'une certaine manière.
Cette idée du nom bien urbain, vous en avez beaucoup débattu?
Pas forcément débattu. Je crois que c'est Juliette qui a trouvé l'idée. Alors peut-être que Nicolas dirait que c'est lui, mais bon, peu importe. Donc Juliette avec qui on a fait aussi Ropan. L'idée, c'était de se dire comment on arrive à trouver... Alors, la première idée, c'est surtout à ça qu'il faut revenir, c'est qu'on ne souhaitait pas forcément mettre nos noms propres dans le nom de l'agence. Peut-être dans un esprit, encore une fois, d'équipe, de se dire c'est pas forcément une personne spécifiquement ou deux, c'est peut-être un peu un écosystème et ça peut être aussi protéiforme et évoluer dans le temps. Ça, c'est la première idée. Partant de ça, c'est une belle idée, mais il faut trouver quand même quelque chose. Et bien urbain est arrivé sur le jeu de mots, bien sûr, sur ce rapport aussi à l'urbanisme. On pourra peut-être y revenir, mais c'est aussi une discipline... un peu connexe, pas forcément facile à atteindre lorsqu'on monte son agence. Le côté un peu, je dirais, politesse, être bien urbain, voilà, c'est quelque chose qui évoque des choses chez les gens. D'apporter cette forme de politesse, d'un petit peu de simplicité, encore une fois, de respect, c'est un peu un grand mot, mais y a un peu de ça.
De temps en temps, il faut utiliser des grands mots pour essayer de tirer vers le haut. Et puis peut-être aussi le côté kaléidoscopique, si le mot existe, ou
oui,
kaléidoscope, de l'urbain, entre la propriété privée, le bien commun, et comment toutes ces choses-là s'articulent.
Oui, tout à fait, ouais, y a un rapport à la ville, c'est sûr, c'est évident. Et puis après, on a quand même rajouté atelier d'architecture, pour dire, oui, on fait quand même de l'architecture. On ne voulait pas non plus que ça prête à confusion. Bon, après, je dirais que les projets nous...
Oui, mais vous aviez raison, parce que les programmistes interviennent beaucoup en amont des projets. Mm-hmm. Du coup, avec un nom tel que Bien Urbain, ça pouvait appeler à confusion.
Oui, c'est vrai, même si, encore une fois, peut-être qu'on va en parler, mais on cultive, et d'ailleurs, vous l'avez un peu abordé en introduction, on cultive quand même cette capacité à pouvoir faire un peu de tout dans le spectre qu'on évoquait, de l'urbanisme jusqu'au très concret de la réhabilitation, de la construction, et aussi de quelques commandes en amont. Ça, on y attache beaucoup d'importance, à essayer de retrouver une place de l'architecte, pas forcément dans des moments ou des sujets sur lesquels on l'attend de prime abord. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien cultiver.
Le mouton à cinq pattes ?
Le mouton à cinq pattes, d'une part, et puis, là, très concrètement, peut-être pour illustrer, me vient à l'esprit une des premières missions ou une des petites missions qu'on a commencé, visait à caractériser le bâti en centre-bourg, dans le cadre de la rénovation de centre-bourg. C'était des missions que l'on menait dans l'Aisne, où là, la place de l'architecture pure est très marginale, puisque nous, on intervient en tant que quasi-expert du bâtiment. Donc, on relève les choses, on essaie de caractériser l'état. Parfois, on aboutit à des faisabilités, des études de capacité, d'évolution. Et d'une certaine manière, on amène une petite pierre à l'édifice de tout ce qu'on appelle communément l'habitat insalubre, qui malheureusement règne dans pas mal de petites villes un peu déshéritées. Et donc ça touchait aussi à ce genre de mission. Ça nous intéresse beaucoup. Et on a remarqué que plus on en faisait, plus ça nourrissait aussi notre pratique, pour le coup, beaucoup plus architecturale du quotidien.
Vous êtes combien à l'agence aujourd'hui, au total ?
Aujourd'hui, on est 5 personnes. Mm-hmm. Donc, c'est une petite équipe qu'on essaye de pérenniser au maximum. Donc, tout le monde travaille. Voilà, on essaie d'avoir des CDI, on essaie d'avoir des choses un peu stables et de construire assez progressivement aussi l'agence. On n'est pas dans le...
Rappelez-moi, elle a été fondée à quel...
En février 2016, pour être très précis.
Oui, quand même.
On avance, je dirais, encore une fois, lentement mais sûrement, y compris vis-à-vis de la construction d'une équipe.
Alors justement, ça tombe à pic. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Vous avez eu l'occasion de préparer cette question avec vos associés ?
Non, pas particulièrement. En fait, je pense que non, parce que tout reste un peu à faire, d'une certaine manière. Même si on commence à sortir un peu de la case des jeunes, puisqu'on commence à avoir 10, 15 années d'expérience. Donc, on commence à rentrer dans un intermédiaire. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir, et puis les enjeux de demain vont encore plus nous stimuler. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Et puis, je n'avais pas d'idée très arrêtée, en fait, je crois. D'autant plus que lorsque je suis sorti de l'école de Toulouse, j'ai un petit peu travaillé en agence. Je n'ai pas pu être gardé, parce que c'était les années 2009-2010, où les agences prenaient encore un peu la suite de la crise de 2008. Et d'ailleurs, donc, je travaillais chez Myriam Bekoucha et Laurent Godu, 360 degrés architecture, une agence qui fait beaucoup d'équipements à Toulouse, qui est une très grande qualité. Et il m'avait dit, mais va faire ce DSA d'urbanisme, c'est une corde à ton arc qui te manque peut-être. Il y avait des anciens de Toulouse qui l'avaient fait. Va voir un peu là-bas, nous on ne peut pas te garder. C'est l'occasion de rajouter une année de plus d'études. Je pouvais me le permettre, donc c'était plutôt confortable. Et donc voilà, ça a ouvert aussi un peu le champ à une pratique un peu différente, une vision un peu différente. Et donc ça justifie encore plus que il y a presque un effet de surprise. On a fait ça un peu, non pas par hasard, parce qu'on s'est... Je dis on parce qu'il y a plusieurs personnes de Toulouse avec moi qui ont fait le DSA. Mais ça a ouvert un champ. Et donc finalement, à la fin de mon master de Toulouse, je m'attendais pas à faire ça. Je m'attendais à travailler en agence.
À rester à Toulouse ?
Probablement, oui, effectivement. Et puis en fait, voilà, le DSA a amené une autre vision. Je pense qu'il y avait quand même un manque un peu... d'urbanisme, pour le dire de façon très basique, mais à Toulouse, en tout cas moi je ressentais le manque. Donc ça c'était vraiment très bien, le DSA d'urbanisme, d'architecture urbaniste à Marne-la-Vallée en plus est très concret, puisque ce sont des études concrètes, des commandes vraiment qui sont passées au DSA. Puis ça m'a permis de rencontrer Yves Lyon, qui était directeur du DSA, et puis ensuite de travailler chez Yves Lyon. Enfin, je me laisse un peu porter d'une certaine manière, mais ça me déplaît pas.
Les choses arrivent naturellement.
Oui, peut-être qu'on les provoque. On provoque un petit peu peut-être aussi.
Oui,
mais...
quand même.
Mais voilà.
Vous faites ce qu'il faut, en tout cas, pour que ça arrive.
On essaye.
Voilà. Bon, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets?
Oui.
Projets emblématiques ou si vous en avez déjà? Moi, j'ai l'impression que oui. Parce que je trouve que pour une jeune agence, parce que à peine 10 ans pour une agence, ça reste jeune. Et avoir une commande comme les Arts Déco, je trouve que c'est super.
Oui, voilà,
et faire
super,
de l'équipement public, c'est pas donné à tous. Mm-hmm. Parce qu'on sait très bien que pour concourir, il faut des références et que le problème, c'est qu'il faut commencer un jour, mais si on n'a pas la référence, du coup, il faut s'atteler à une autre équipe, enfin, ou alors être appelé par un mentor.
Absolument.
Voilà, alors racontez-nous tout ça.
Alors, c'est vrai qu'il y a plein de sujets dans la question. L'histoire de nos projets, alors, on pourrait presque commencer par ce qu'on fait pas du tout. C'est-à-dire que nous, peut-être contrairement à quelques autres agences qui se montent, on n'a jamais fait de particulier et ça n'a pas été nos premières commandes. On en fait du reste toujours pas. Donc tout de suite, on a été modestement dans le bain avec ce qu'on savait faire, avec ce qu'on avait appris à faire en agence, en l'occurrence plutôt des équipements, du logement, de la réhabilitation.
Alors vous travaillez pour les particuliers indirectement? Avec
alors,
le logement.
Absolument. Il y a toujours des gens qui y habitent, bien sûr, nécessairement. Mais en tout cas, en tant que client, on s'est tout de suite positionné avec nos petits bras pour faire un peu ce qu'on savait faire, d'une certaine manière, mais à notre échelle, naturellement. Et puis, il y a plusieurs faits qui ont été marquants. Je pourrais en citer trois. On a parlé des Arts Déco. Je vais y revenir. Un premier qui a été un prof que j'ai rencontré en HMO. J'ai fait aussi une HMO à Val-de-Seine. Ce qui fait que j'ai vu quand même trois écoles d'archi, c'était pas inintéressant de voir un peu les fonctionnements, même si c'est des études différentes à chaque fois. Et donc un prof que j'ai rencontré en HMO et qui s'était très bien passé me dit quelques mois plus tard, tiens Jérôme, je suis AMO pour une institution scolaire catholique, les OGEC, organisme de gestion des établissements catholiques, et on lance un concours, en tout cas on cherche des candidats pour la restructuration et l'extension d'un lycée dans le 16e arrondissement. J'ai pas d'acquaintance particulière avec le monde catholique. Mais par contre, il y a cette espèce de philosophie, je pense, liée à ces établissements, de faire confiance un peu aux jeunes. Et cet AMO avait pensé à moi, et donc à nous, pour essayer d'avoir une parmi les agences retenues, en tout cas candidates, une agence plus jeune. Pour être parfaitement honnête, nous n'étions même pas inscrits à l'Ordre des architectes. Il nous a dit, donc je l'avais dit, il m'a dit, c'est pas grave, on verra. Prends un bon bureau d'études, il y a du sous-œuvre, il y a deux, trois trucs compliqués, entoure-toi bien et on verra. On a quand même, on n'est pas fou, on a pris donc un bon bureau d'études, on est parti avec Arcadis et on est parti aussi avec un confrère qui s'appelle Thomas Fayol, un ancien de chez Yves Lyon.
Comme par hasard.
C'est la famille. Et voilà, on s'est associé avec lui. On a été retenu pour faire concours, que l'on a fait à 200%, qu'on a gagné, le bâtiment a été livré. Voilà, là, je fais ça comme si ça allait très vite et que c'était très simple, sauf que c'était très long et très compliqué. Mmh. Donc ça, c'est un premier projet très marquant, parce que forcément énorme, pour nous en tout cas. Contexte parisien, très compliqué, on a eu toutes les difficultés du monde sur ce chantier, avec bien sûr le Covid, enfin, tout un tas de choses qui sont arrivées bien sûr entre-temps.
Oui, donc ça a été livré récemment.
Ça a été livré, oui, relativement récemment, c'est un projet qui a deux ans. Mmh. Et voilà, un second projet un peu en parallèle. C'est un projet sur lequel on était retenu par une offre très simple pour la RIVP. C'était la restructuration de 19 logements dans la rue de Saint-Onge, dans le 3e arrondissement. Et donc là, c'est pareil. Je pense que c'est la grande qualité, entre autres, parce qu'ils ont beaucoup de qualités, mais des bailleurs sociaux, notamment parisiens, c'est de faire confiance aussi aux jeunes. À chaque fois, il y a cette notion de confiance quand même qui est importante.
Et puis, ils aiment aussi diversifier la commande.
Absolument.
C'est-à-dire partager, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Ils ont ce rôle-là de certaine manière, un peu distribuer le travail un peu à tout le monde. Donc voilà, une offre que l'on a faite, une candidature, puis une offre, ou c'était une offre directe d'ailleurs, je ne sais plus, mais enfin, on a été retenus. Le projet a mis un petit peu de temps à démarrer, et puis on l'a livré là l'année dernière, avec beaucoup de satisfaction, parce que un projet qu'on avait remporté en 2016, qui a démarré réellement en 2018, mais sur lequel on a mis, et c'est là l'intérêt aussi de travailler avec un grand bailleur comme la RIVP, donc c'est une restructuration complète, on a revu entièrement la configuration des logements. On a une très grosse approche aussi énergétique, parce que c'est quand même...
J'allais vous poser la question.
Absolument. Donc c'est un projet, d'ailleurs, c'est un bâtiment de André Lecomte qui a été construit dans les années 50, en poteau-poutre béton, donc une grande permissivité dans l'adaptation,
dans
la capacité.
La volumétrie.
Absolument. Mmh. Avec une très belle façade sur rue que l'on a conservée, donc on a plutôt isolé par l'intérieur côté rue, et puis côté cour, On a fait un gros travail lié à la reconfiguration des typologies, de retournement des typologies côté cour, parce que c'est là où il y avait le sud, enfin la meilleure orientation, disons, puis moins de nuisances liées à la rue. Où là, on a isolé par l'extérieur, avec tout un tas d'agrandissements de baies, d'isolants biosourcés, des choses comme ça, on essaie d'aller assez loin. Et on a également développé du réemploi in situ. Je ne vais pas tout détailler, mais c'est intéressant parce que c'est quand même voilà, aussi un premier projet avec un client qui fait confiance et qui, en plus, nous permet d'aller relativement loin dans
l'accomplissement. Vous avez travaillé avec qui pour le réemploi ?
On a travaillé avec nous-mêmes pour le réemploi. Mmh. Ça fait comme si j'étais un vieux briscard, mais c'était en 2018. Le réemploi n'était pas encore systématiquement dans les appels d'offres comme on peut le voir aujourd'hui. Mais on avait cette appétence particulière parce que le bâtiment avait des qualités, donc on a récupéré des choses directement in situ, quoi.
Mmh, c'est bien.
Et puis le troisième projet, peut-être, puisque vous évoquiez le musée des arts décoratifs. Le musée des arts décoratifs, alors on n'a pas refait tout le musée des arts décoratifs, on a fait les ailes dédiées à la mode en espace temporaire. Donc c'est une partie du musée qui fait à peu près un peu plus de 1000 mètres carrés sur deux niveaux. Donc c'est quand même une aile du Louvre, c'est assez émouvant presque de travailler là-bas. Et puis là, c'était un concours sur lequel on a été appelé par un grand muséographe et scénographe qui s'appelle Adrien Gardère, avec qui Nicolas particulièrement avait travaillé sur d'autres sujets dans une autre vie, la vie chez Yves Lyon notamment, avec qui on avait gardé de très bons contacts. Et donc voilà, il y avait besoin d'un architecte sur ce projet-là. Et donc on a endossé ce rôle avec une vraie complicité avec Adrien, qui est quelqu'un de... Et toute son équipe, d'ailleurs, déjà très agréable à travailler, puis particulièrement douée. Donc, on a développé tout ça ensemble.
C'est formidable d'avoir des maîtres d'ouvrage ou des partenaires qui sont doués.
Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et il faut le dire quand c'est le cas.
Oui,
donc,
complètement.
Donc, voilà, Adrien, effectivement, c'est une sommité dans le milieu, en plus de la muséographie et de la scénographie. Mmh. Et puis là, avec un truc un peu particulier, c'est que le client avait calé la date de son grand gala de réouverture des ailes de la mode avant d'avoir lancé le concours. Donc c'est toujours un peu un genre. Donc on a fait quelque chose qui était extrêmement serré, extrêmement tendu, mais avec un maître d'ouvrage qui prend des décisions, et des décisions parfois tranchantes, mais qui permettent d'avancer de façon assez efficace. Donc c'est pareil, une belle équipe aussi du côté du musée des Arts Déco. De toute façon, il n'y a pas de secret hein, pour avancer aussi rapidement. On a fait le chantier en 6 mois, une restructuration.
Combien de mètres carrés ?
Il y avait 1200 mètres carrés. Et puis c'est surtout une restructuration lourde, puisqu'on a refait, au-delà de la question de vitrine, avec tout un travail de vitrine amovible, notamment développé par Studio Gardère, il y avait bien sûr une grande part de la technique, puisqu'on expose beaucoup de textiles. Donc, il y a des contrôles de ventilation, de température, d'hygrométrie.
Exposition au feu.
Absolument. Mmh. Et donc, oui, d'ailleurs, il y avait des gros sujets des enfumages, puisqu'on on accueille quand même du public de façon assez importante. Et puis, tout ça dans un écrin patrimonial, hein, puisqu'on est dans une aile du Louvre. Alors, c'est amusant parce que c'était le ministère, je ne sais jamais si c'était le ministère des Finances ou des Affaires étrangères françaises. C'était un ancien ministère qui occupait... avant le musée des arts décoratifs, cette aile-là.
Les locaux.
Absolument. Ils avaient construit un plancher intermédiaire entre les baies qui se voient d'ailleurs depuis la rue. Donc le musée est sur deux niveaux. Mais ces deux niveaux n'existaient pas à l'époque du Louvre, bien sûr. Et puis tout ça a été recouvert, emballé avec un petit peu d'amiante par-ci, par-là, avec des faux plafonds très bas. Et tout le projet a été surtout de curer tout ça et de révéler un peu la majestuosité du lieu.
Ah oui, donc vous aviez à gérer un chantier avec un peu d'amiante. En même temps, il y en a
oui,
dans beaucoup de bâtiments.
Oui, ça c'est plutôt bien fait, effectivement. Mmh. Voilà, mais c'est surtout c'est amusant parce que c'est pas un chantier où on a rajouté, ou en tout cas un projet sur lequel on a rajouté beaucoup de choses, mais c'est plutôt un projet sur lequel on a retiré des choses.
Vous avez fait place nette.
On a fait place nette, on essaie de redécouvrir un peu aussi en assumant la sédimentation dans le temps du lieu, parce qu'il y a des parties en pierre, il y a des parties en parpaing, c'est très large, il y a des parties en béton.
Oui, ça doit être passionnant.
Voilà, c'est passionnant, effectivement.
Presque l'œil de l'archéologue.
Il y a un peu de ça, ouais. Et je trouve que c'est en plus particulièrement adapté à la mode, dans le sens où voilà, maintenant ils viennent exposer, il y a eu des grands noms, il y a Thierry Mugler qui est passé par là, voilà, il y a eu la première exposition, c'était Harper's Bazaar, donc il s'approprie à chaque fois ce lieu qui est une boîte à outils pour scénographe finalement.
Mmh. Paris à cœur.
Absolument.
Mmh. Bon. Peut-être d'autres projets en perspective ou dans...
Oui, toujours.
Sur les tablettes.
Oui, on a... Oui, je ne sais pas bien sûr tous citer, mais on a pas mal de projets en cours. Et plus qu'un projet particulièrement, on a à cœur de cultiver cette diversité, du logement à l'équipement, en neuf comme en réhabilitation. On fait quand même globalement beaucoup de réhabilitation. J'aime bien appeler ça de la transformation dans le sens où le spectre lui-même est très large dans le domaine de la transformation, puisqu'on a à la fois des choses en site occupé qui sont plutôt de l'ordre de la rénovation thermique, et puis des choses où on cure tout et on recommence.
Oui, avec des changements d'usage. Absolument. Qui induisent une volumétrie différente.
Absolument. Mmh. Et puis ces transformations, elles sont assez souvent associées à des extensions, surélévations, etc. En ce moment, on travaille pour des grands bailleurs type Paris Habitat, aussi, où là, il y a aussi tout un enjeu autour de la relation à l'habitant, puisque c'est quand même la finalité, mais c'est aussi, surtout, des lieux qui sont occupés. Donc, il y a ce travail-là, qui n'est pas forcément travail, d'ailleurs, qu'on apprend à l'école particulièrement. Donc voilà, il faut savoir parler aux gens, expliquer. C'est des choses qui sont à la fois longues, à la fois... il faut être très précis, parce que c'est quand même... chaque mot
peut être mal interprété.
Voilà, et puis compte, effectivement, puisque là, on est dans le concret ultime. Et puis, on continue nos missions urbanisme, faisabilité. On essaie de... Voilà, les journées ne se ressemblent pas. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on arrive à jongler entre des projets assez différents.
Une commande rêvée. Après les arts déco, j'imagine que vous avez peut-être envie de rebondir sur... Ce qui est assez qu'en ce moment, il y a moins d'appels d'offres de ce type.
Oui. Alors là, c'était un peu une chance finalement, le musée des arts décoratifs. Mais non, une commande rêvée, pas particulièrement, une plutôt essayer d'espérer une forme de stabilité, parce que c'est vrai que dans les agences, il y a des hauts, il y a des bas assez importants. Donc ça, pour ça, l'équipe, le travail tous ensemble, la méthodologie, les outils que l'on s'est créés, c'est presque plus ça que je souhaite continuer à renforcer. Et à maintenir, dans le sens où c'est ça qui nous permet d'avoir notre outil de production. Et puis après, je pense qu'avec le champ de la réhabilitation qui s'ouvre maintenant très très fort, il y a forcément de très beaux sujets dont je connais même pas l'existence, et j'espère nous tomberons dessus. On verra.
Oui. Je sais pas si vous recevez Chroniques d'architecture.
Je ne le reçois pas, mais je le lis régulièrement. Oui. Il y a des articles.
Vous avez vu celui qui a été distribué hier? Non,
non, je ne l'ai pas vu, non.
Non, parce qu'il y a un article sur le devenir et de la communication en architecture et des architectes, et enfin qui se positionne du point de vue, on dit que, et du coup les métiers vont disparaître, c'est assez terrifiant.
Avec l'intelligence artificielle?
Oui.
D'accord.
Et je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'on aura toujours besoin des hommes pour construire pour les hommes.
Alors oui, alors ça ne veut pas dire que ça va sauver les architectes, mais oui, effectivement, à la fin, il y aura quand même quelqu'un qui va prendre une pelle et un peu de ciment ou empiler des blocs de paille si on est un peu plus vertueux.
Et le côté poil à gratter de l'architecte, celui qui va chercher au-delà, plus loin
Oui, non, mais c'est sûr. De toute façon,
c'est indispensable quand même.
Oui, et puis c'est là où il faut qu'on fasse valoir notre savoir. Mmh. Notre savoir acquis, bien sûr, en école, mais aussi tout au long du cursus. Donc c'est pour ça que même par rapport à la question de qu'est-ce qu'on peut souhaiter, on peut aussi souhaiter probablement de toujours se former, d'être toujours plus expert pour effectivement tirer notre épingle du jeu. Mais je ne suis pas très inquiet quand je vois la production architecturale française. Je pense que les jeunes agences, mais même d'ailleurs les agences confirmées, sont très bien saisies du sujet. Après, si on parle d'outils, d'aucuns diraient que quand c'est passé à AutoCAD, ça devait être une révolution. Quand c'est passé au BIM, ça devait en être une autre. Pas anti-progrès non plus, mais...
Ce sont des moyens.
Voilà, c'est ça. Pour moi, ça reste des outils et des moyens, effectivement.
Mmh. Alors, quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender ce monde, justement, dans lequel on vit, qui est un peu compliqué depuis 2020, et vous avez vraiment, démarré votre pratique, vous avez... à ce moment-là. Mmh. Et depuis 2020, on a du mal à souffler quand même, entre les virus, les guerres, l'instabilité à tout va, à échelle mondiale. L'architecte est amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tout un chacun pour entraîner vers quelque chose de résolument constructif?
Je ne sais pas si les architectes ont beaucoup de prise sur malheureusement ce qui se passe actuellement. Peut-être que pour y répondre, en tout cas vis-à-vis de notre pratique, ce serait essentiellement de peut-être ne pas faire que de l'architecture, essayer de voir un peu d'autres choses. Alors, non pas en termes de pratique, mais de consacrer une partie de son temps. Et c'est pour ça qu'il faut être organisé en agence d'architecture pour avoir du temps à côté. Ça, on y attache aussi beaucoup d'importance, de ne pas passer notre vie à l'agence, pour justement s'intéresser à ce qui se passe à côté, ne serait-ce que d'un point de vue culturel au sens large. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye, moi, d'appliquer de façon un peu plus personnelle, d'essayer d'aller comprendre ou voir des choses qui, de prime abord, ne sont pas nécessairement les choses auxquelles on adhère ou sur lesquelles on a un avis un peu tranché. Donc, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, ça existe aussi en architecture. Je pense que dans le monde de l'enseignement, ça doit être un des enjeux. Enseigner l'architecture, c'est savoir enseigner aussi sa diversité. En passant outre les goûts, être résilient, c'est un peu le mot qu'on emploie tout le temps, mais est-ce qu'on sait le caractériser? Ou en tout cas, est-ce qu'on a les outils pour, encore une fois, je ne sais pas. Aller un petit peu au-delà de ce qu'on imagine de prime abord, je pense que c'est vraiment important.
Alors peut-être que vous imaginez le monde de demain d'une certaine manière.
Le monde du bâtiment, au moins.
Répondez comme vous voulez.
Moi, je vais me consacrer au monde du bâtiment parce que c'est peut-être ce que je connais le mieux. Enfin, j'apprends encore, mais on en a déjà pas mal parlé. Pour moi, c'est savoir se mettre vraiment corps et âme en tant que sachant, en tant que grand professionnel sur les questions de réhabilitation, de transformation, au sens large, encore une fois. Probablement savoir faire mieux avec moins, parce que naturellement... on a de moins en moins de ressources, mais après tout, les viviers sont là aussi. Donc, on peut réussir à expérimenter aussi autour de ça. On sent que ça se structure. Moi, je le vois assez clairement autour, y compris de grandes entreprises qui... On parlait du réemploi tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à créer des filières entières. Donc, ça fait partie de ça aussi, continuer à s'intéresser à tout ça.
À explorer. Ouais.
À explorer. Et puis, regarder aussi un peu dans le passé. Tout simplement, parce que en fait, on n'invente rien, ou pas grand-chose.
Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça.
Et notamment sur la question du réemploi. Aujourd'hui, on appelle ça du réemploi. À l'époque, je ne sais pas laquelle, mais la formule consacrée à l'époque. Autrefois, autant jadis d'autrefois, on appelait ça du bon sens. C'est-à-dire...
C'était fait naturellement.
Voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est savoir conjuguer les moyens modernes, les outils, encore une fois, que l'on a, les normes, tout un tas de choses qui ne sont pas que du mauvais. Les architectes râlent toujours contre les normes, mais si en France, on a un taux très très faible de morts par incendie, c'est aussi parce qu'on a 2-3 garde-fous. On peut regarder ce qui se passe en Angleterre, c'est pas exactement la même chose parfois. Donc voilà, c'est pour donner un exemple. Hein.
Et puis en plus, la problématique de l'incendie, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps.
Absolument. Mmh. On progresse beaucoup, tout ce qui est réglementation thermique aussi. Et puis après, donc c'est savoir conjuguer ça. Une forme de bon sens qui existe depuis très longtemps, avec une sorte de normatif, peut-être parfois poussé à l'extrême, mais en tout cas sur lequel on peut trouver un équilibre entre les deux.
Puis on peut travailler en dérogation aussi.
On peut travailler en dérogation, on peut... De toute façon, il va falloir déroger sur certaines parties. Et ce n'est pas forcément de la dérogation normative. C'est aussi, je prends l'exemple, ça paraît évident, on a récupéré du parquet sur le projet pour la RIVP. Plus de 90% des parquets en chaîne ont été récupérés. Je prends toujours cet exemple parce que c'est assez symptomatique. Tout le monde dit récupérer le parquet, ça tombe sous le bon sens. Il faut accepter que donc ce ne soit pas un produit qui sorte d'usine et qui ne soit pas rectifié et parfaitement d'équerre, y compris vis-à-vis du bailleur, parce que là, on est dans une problématique de bailleur social. Alors, non pas qu'il nous ait fait des remarques dessus, mais ça peut parfois revenir.
C'est toujours une question de responsabilité.
Exactement, et puis d'exploitation aussi dans le temps, de gestion. Et puis après, il faut pouvoir le déposer concrètement. Et là, c'est là où on retrouve des gens qui le font pour nous.
Parce que c'est quand même... déposer, le retraiter.
Le retraiter, le reposer. Et puis après, on fait un peu les architectes de temps en temps. On dit, oh, celle-ci, elle nous plaît pas trop, celle-ci, elle nous plaît plus, etc. Donc, il faut aussi, de notre côté, savoir prendre un peu sur soi sur certains sujets. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est ça qui fait qu'on réinvente aussi un peu notre approche à une petite échelle. Mais c'est toujours une question d'équilibre, effectivement. Il faut trouver cet équilibre-là dans la bonne recette. Ouais.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui?
Alors, on en a parlé un petit peu d'ailleurs, c'est cette question de la formation, moi, qui me paraît importante. C'est pas parce qu'on sort de l'école d'architecture, pardon, qu'on est formé, que la vie professionnelle, les 40 prochaines années sont tracées. Il faut savoir retourner à l'école, d'une certaine manière. Ça, je pense que c'est un premier conseil. Moi, avec mon parcours, c'est ce que j'ai un petit peu fait, c'est ce qu'on continue de faire à l'agence. L'Ordre des architectes, d'ailleurs, est assez bien structuré pour ça, puisque au-delà des... On a des obligations de formation, d'une part. Après, donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez, assez bien fait du point de vue de l'Ordre des architectes, qui incite. L'ensemble des structures de formation sont quand même extrêmement bien développées et permettent, si on se débrouille bien, de ne pas avancer des frais trop importants. Et puis au-delà de ça, la formation, elle n'est pas que dans des centres de formation, dans des écoles, elle est aussi liée à la curiosité, liée à tout un tas de pratiques quotidiennes où on pourrait
Il
se dire...
Il
voilà.
ne faut pas tout attendre de l'autre.
Exactement. Ça pourrait être un premier conseil. Et puis, toujours lié au monde professionnel, forcément, ça, encore une fois, s'intéresser dans le monde dans lequel on évolue, y compris d'un point de vue économique. Je pense que c'est une des choses qui est un peu oubliée, peut-être. C'est peut-être pas l'objet non plus d'une école d'architecture, nécessairement.
Oui, mais c'est quand même une réalité.
Mais c'est une réalité, et c'est là où probablement beaucoup déchantent, dans le sens où, on agit mieux dans le monde architectural, en tant que du bâtiment, en comprenant son fonctionnement ou ses fonctionnements économiques. Donc l'argent, c'est pas sale. Il faut savoir travailler avec, travailler, comprendre encore une fois le point de vue de l'hôte, le point de vue du client, le point de vue de l'utilisateur, qui est pas forcément, qui lui a pas fait 5 ans d'école d'archi. Mais c'est pas facile à saisir parce que lorsqu'on n'y a pas été sensibilisé, on découvre aussi tout ça. Donc voilà, on évolue forcément dans un cadre économique, quel que soit d'ailleurs le projet, y compris quand on fait des choses liées au réemploi ou des choses très, très vertueuses. Hein. C'est pas parce que c'est vertueux qu'il n'y a pas d'argent derrière. Et puis, peut-être un dernier, je ne sais pas ce que je pensais à ça, mais c'est peut-être aussi avoir conscience qu'on s'inscrit dans un temps long. Temps long en pratique d'agence, c'est bien de rester un petit peu quand même en agence, de voir ce qui s'y fait. Les projets durent longtemps. Je parlais d'un projet gagné en 2016, livré il y a un an.
Et puis, ce sont des beaux projets dans des grosses agences. C'est ça qui est formidable. C'est que le jeune architecte peut toucher à des projets incroyables.
Oui, absolument. Ouais. Alors, dans les grandes agences, d'une part, mais je pense qu'il y a aussi une place dans les petites. Enfin,
oui.
La finalité n'est pas nécessairement de monter son agence, d'ailleurs.
Oui.
On peut, les bonnes agences ont besoin de bons architectes en interne.
Oui.
Et ça, c'est hyper important.
Oui.
Donc oui, encore une fois, je pense qu'il y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est propre à l'école d'architecture. Il y a probablement un petit gap qui se fait entre la sortie de l'école et la découverte du monde de l'agence, au-delà des conditions qui parfois peuvent être largement critiquables, mais sur la pratique elle-même. Donc il y a cet enjeu-là aussi, à se dire voilà, comment je peux apprendre, me former, continuer à me former dans une agence en me mettant dans une perspective de temps long où on ne fera pas forcément nécessairement tout de suite tout ce qu'on a fait en école d'archi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a coutume de dire d'ailleurs à l'agence. On est une petite équipe et on ne fait rien faire à nos collaborateurs qu'on ne fait pas nous-mêmes. Donc voilà, c'est aussi ça. C'est aussi montrer qu'on participe à tout et qu'il n'y a pas que de la conception en agence d'architecture. Il y a aussi tout un tas de choses qui s'y passent et qui sont absolument fondamentales pour pouvoir
produire. C'est une entreprise.
Produire, absolument. C'est une entreprise.
Mmh.
Et puis pour enrichir le propos sur les conseils donnés aux étudiants, même si la légitimité, je ne sais pas si je suis parfaitement légitime sur ce sujet-là.
Vous êtes très humble.
Non, c'est vrai. En tout cas, c'est peut-être aussi juste pour apporter une petite vision ou en tout cas un petit avis sur le sujet. Mais l'idée, c'est de se dire que au fond, une carrière dans une agence. On parlait justement de l'armée, ces sujets aussi qui existent. On faisait carrière dans l'armée. Mmh. On peut faire carrière en école d'architecture. Je fais pas d'association entre l'armée et l'architecture, mais c'est juste qu'on évoquait ce sujet-là. Et je pense que c'est important d'avoir des gens. Et on le voit d'ailleurs, les grandes agences pour moi sont structurées comme ça.
Le métier, je pense, est tellement énorme.
Oui.
Il faut une discipline. Et, enfin, je veux pas. Je suis très artiste, hein, au fond de moi, donc parfois c'est un peu antinomique, mais justement, pour s'en sortir, on a besoin de discipline. Et je pense qu'aujourd'hui, où le monde se perd un petit peu, où on retrouve des vélos dans tous les sens sur les trottoirs de Paris, je dis souvent dans le podcast, parce que j'en ai tellement marre d'être à deux doigts de me faire shooter quand je sors de Saint-Lazare. Attention, Anne-Charlotte, sors de Saint-Lazare, foutez-lui la paix, s'il vous plaît. Et on retrouve un peu ça partout. Et si on n'a pas en soi une manière assez à la fois respectueuse, cadencée, de respect pour soi, de respect pour son équipe, de respect, je pense qu'on ne peut pas trop... Enfin, c'est compliqué d'y arriver.
Oui, d'ailleurs, on dit que l'architecture est une discipline. Mais
voilà.
Oui, encore une fois, c'est pour pouvoir avancer sereinement et aboutir. Une fois que ça, le cadre, la rigueur effectivement qui s'applique aussi à, je dirais, la bonne gestion des gens en agence, l'attention qu'on peut porter aux gens, une forme de pédagogie qu'on peut apporter aussi au quotidien, parce qu'on n'a pas tous le même niveau nécessairement. Nous, on a un peu plus d'expérience que nos collaborateurs ou collaboratrices, donc on a aussi ça. Et je suis assez admiratif, je vais très souvent sur les grandes agences comme Renzo Piano ou des gens comme ça. La structuration est extrêmement forte. Et ça se lit directement dans la traduction formelle presque des projets. Et je trouve que c'est assez, assez éloquent.
Oui, et ça permet une liberté justement.
Absolument.
Et une générosité. Moi, j'ai ressenti ça quand j'ai été chez Skidmore à San Francisco. J'ai eu cette chance inouïe. Et c'est extraordinaire.
Oui.
Avec, en plus, des dirigeants, c'est quand même, ils sont dans le top 3 de l'architecture mondiale. Ils viennent vous saluer, ils viennent parler avec vous. Enfin, une disponibilité, une ouverture d'esprit, chapeau. Mais en même temps, il y a de la discipline.
Oui, la structuration, la discipline. Et d'ailleurs, là je cite presque un peu délibérément par caricature une très grosse agence, mais à l'échelle plus artisanale, vous parliez d'artistes tout à l'heure, moi je préfère parler d'artisans, à l'échelle plus artisanale, c'est tout à fait possible aussi. C'est, encore une fois, c'est pas antinomique du tout. Et ça me semble, oui, bien sûr, forcément fondamental. Et d'ailleurs, par rapport à la réflexion qu'on avait tout à l'heure sur l'architecte va-t-il être remplacé, on sera d'autant plus fort si on arrive avec un vrai savoir technique, une grande liberté aussi dans le travail de composition et de tous les fondamentaux qui font l'architecture également. On sera encore mieux vu ou bien vu dans notre pratique quotidienne. D'ailleurs, nous, on le voit. En réhabilitation, c'est assez équivoque, puisque quand on arrive comme ça, on a tendance à réussir à faire quand même, encore une fois, ce travail entre les gens qui habitent, le client... parfois les entreprises lorsqu'on construit, et d'avoir cet esprit de synthèse. On cite souvent la question du chef d'orchestre, mais c'est encore plus appliqué lorsqu'on a une forme de légitimité liée à un savoir, parce que, encore une fois, c'est juste une question de savoir.
Je vous rejoins. En fait, c'est assez marrant ce que vous venez d'évoquer entre l'artiste et l'artisan. Bon, moi, il se trouve qu'en plus d'histoire de l'art, j'ai fait les Beaux-Arts, donc j'ai eu une formation où on part dans un champ de créativité extrêmement ouvert. Et dans l'art contemporain, on se rend compte que finalement, il y a tellement peu d'élus, parce que c'est énorme comme ouverture de champ, justement. Et l'artisan, par son travail, par de la main et de l'esprit, gagne dans son savoir,
oui,
et
puis,
dans sa pratique.
Au quotidien, on admire les artisans. Les gens qui sont en train de rebâtir Notre-Dame sont des artisans fantastiques. Ça fait partie... des derniers savoirs, des gens qui font de la charpente, des gens qui refont des vitraux. Enfin, moi, je vais souvent voir ça.
Et le grand public est très demandeur de ça.
Absolument. Et ça a un aura.
Parce qu'il l'appréhende beaucoup plus.
Absolument.
Dans sa matérialité.
Ça devient très concret, tout simplement.
Oui, exactement.
Et puis finalement, moi, ce que j'aime bien le dire d'ailleurs parfois à l'agence, l'architecture, ça nous regarde. C'est notre problème. Il ne s'agit pas de faire un cours d'architecture à chaque fois qu'on présente ou qu'on défend un projet. Je pense que je préfère aborder la chose en disant on montre qu'on est sérieux, on montre qu'on est des professionnels, on montre qu'on peut s'engager de façon très concrète, très précise sur les commandes qu'on nous demande. Et la part architecturale, si le client le voit, c'est tant mieux. S'il ne le voit pas, ça nous appartient d'une certaine manière aussi.
Oui, c'est passé naturellement.
Et puis, sans coup d'éclat particulier, quand on parle de logements sociaux, on peut se poser la question du coup d'éclat. Est-ce qu'il faut faire des coups d'éclat systématiquement ? Pas nécessairement. Et donc voilà, il y a
espèce d'équilibre encore une fois. À l'heure de la communication, ça se... Là aussi, c'est tout un débat, je crois.
C'est sûr.
Voilà. Un mot de la fin pour le grand public ?
Un mot de la fin pour le grand public.
Aimer l'architecture.
Et qui va nous écouter, oui. Oui, mais je crois que les gens aiment l'architecture en plus, globalement. Parce que... Alors, ils aiment peut-être pas l'architecture contemporaine, parce qu'elle est mal comprise, parce que plein, tout un tas de choses. Peut-être qu'on s'exprime mal aussi, parfois. Mais je pense, oui, je pense que les gens aiment bien l'architecture en plus. C'est ce que on le voit dans les conversations courantes, c'est quelque chose qui revient relativement souvent. Et les gens ont plutôt des avis assez tranchés, pas toujours à côté de la plaque. Donc,
ah, mais là aussi, il y a une histoire de bon sens.
Absolument.
Il y a toujours
absolument.
Quelque chose à en
ça
tirer.
Réfère, mmh. Ça réfère mmh. au bon sens. Mmh. Mais voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être un mot sur aussi le. On en parle souvent, mais c'est quelle image on veut donner collectivement de l'architecte. Je pense que c'est une image qui évolue quand même beaucoup. On le voit d'ailleurs, y compris sur des laps de temps assez courts. On le voit à travers la production. Et donc voilà, moi je souhaiterais presque qu'on arrive à cultiver encore plus cette image d'un professionnel sur lequel on peut se reposer, qui existe déjà, hein, très certainement. Et qui a sa carte à jouer dans un monde, effectivement, demain, qu'on nous annonce, en tout cas, plus complexe. Donc, un savoir technique qui nous permettrait de trouver des solutions, puisque tout est un peu ville, tout est un peu architecture. Là, très récemment, on voit les enjeux sur le suburbain, sur la campagne, les agriculteurs, etc. L'aménagement du territoire au sens large. Je pense que ça, c'est au-delà de la question du goût, sur lequel je pense que tout le monde passe assez vite. Comment l'architecte peut retrouver un peu sa place ou trouver sa place dans une sorte d'aménagement comme ça du territoire au sens large. On voit émerger beaucoup d'agences jeunes qui vont s'installer ailleurs qu'en ville pour justement stimuler l'ensemble de ces territoires.
Bah, j'en parle de plus en plus souvent d'ailleurs dans le podcast avec les lauréats européens qui viennent, etc. Je pense que vous avez, en tant que jeune architecte, puisque vous êtes encore jeune, vous avez un vrai enjeu pour peut-être réparer le paysage dans tous les sens du terme.
Oui, c'est vrai. Et moi, d'ailleurs, j'en parle souvent un peu avec pas mal d'amis. Je trouve que les paysagistes, justement, sont probablement les gens qui ont fait leur plus belle et plus grande mue. En disant ça, je n'aime pas non plus quand on affirme des vérités comme ça, mais c'est pas le sens de ce que je veux dire. C'est de dire que je trouve que la discipline du paysage a fortement évolué, ça se voit dans l'approche justement des aménagements d'espaces publics au sens large. Et puis, depuis en plus, là, très récemment, qui sont vraiment constitués, donc il y a avec cette constitution d'un diplôme vraiment reconnu et qui permet de candidater à tout un tas de projets publics, le titre de paysagiste concepteur. Je trouve que c'est presque un exemple aussi pour nous architectes, même si ces disciplines sont très entremêlées.
Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, cet été par exemple, j'ai été, c'était peut-être pas l'été, c'était au printemps, l'année dernière, dans l'Ouest, en Vendée, j'ai vu des paysages que j'avais pas vus depuis très très longtemps, mais d'une beauté où on a l'impression qu'effectivement, on retrouve un cycle de la nature, on retrouve une nature, une végétation riche, belle, généreuse. Et à l'intérieur de ça, l'architecte a peut-être le pouvoir de faire disparaître les affreux hangars.
Oui, ça recroise, quand on parle d'actualité, ça recroise aussi avec tous ces débats qu'il y a eu sur la France moche, qui est quand même une drôle de façon de parler du périurbain ou des entrées de ville. Moi, j'ai trouvé ça un peu dérangeant comme approche.
Pourquoi dérangeant ?
Parce qu'il y a des gens qui y vivent et des gens qui... Et moi, le premier, d'ailleurs, ça m'arrive d'y aller, même si je suis un parfait urbain. Mais tout d'un coup, de qualifier de façon un petit peu, voire franchement caricaturale.
C'est la radicalité.
C'est la radicalité.
Qui devient une sorte de violence.
On ne s'y est pas intéressé depuis 40 ans et tout d'un coup, on décrète que c'est moche. Mmh. Donc voilà, c'est aussi une forme de légitimité. Qui peut dire ça? Je crois que François Leclerc en a très bien parlé, justement, sur le qualificatif qui avait été apporté. Et donc, voilà, il y a, avec le, tout ça est croisé, bien sûr, avec la question du ZAN, la zéro artificialisation nette. Et donc, il y a un enjeu, encore une fois, assez important. Donc, dans la ville, faire la ville sur la ville, naturellement, la transformer, la rendre performante thermiquement, avec, sans mettre de côté la question architecturale. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important. La question du patrimoine, qualifier le patrimoine, le faire évoluer et ne pas décorréler le performantiel de la culture, la culture architecturale. Parce que, in fine, peut-être qu'il faut être 5 ou 10% moins performant pour préserver une architecture ou une culture liée à cette architecture. Il faut peut-être accepter ça parce que dans le temps, c'est quelque chose qui compte. Enfin, à notre sens, et là je parle au nom de l'agence, qui compte énormément. Ça, c'est un enjeu aussi, de, encore une fois, de dosage. Mais ça, c'est un truc important, on le met souvent de côté.
Finalement, c'est un mot de la fin qui a relancé l'échange.
Oui, c'est vrai.
Et qui était riche et fort intéressant.
On pourrait refaire 50 minutes
voilà,
facilement.
Sur le sujet, je pense.
Absolument.
Ouais. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce témoignage dans Comme
Merci,
d'Archi.
Anne-Charlotte, merci.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.